Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 5 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, le mouvement de contestation est déterminé à lutter malgré la répression qui a fait au moins 35 morts lundi.
La justice française a validé l'extradition vers le Burkina Faso de François Compaoré, frère de l'ex-président Blaise Compaoré, en rapport avec l'affaire Norbert Zongo.
Ebola en RDC, la barre des 2000 cas a été franchie, selon les derniers bulletins du ministère de la Santé.
Le président américain Donald Trump participe aujourd'hui en Grande-Bretagne à des cérémonies à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le mouvement de contestation au Soudan restait déterminé ce mercredi à poursuivre la mobilisation. Les manifestants ont rejeté l'appel des militaires au pouvoir à des élections, deux jours après la dispersion sanglante d'un sit-in à Khartoum, qualifié de massacre. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Les rues de Khartoum sont restées quasi désertes mardi. De nombreuses rues ont été bloquées par des pierres, des troncs d'arbres et des pneus, des barricades de fortune érigées par les manifestants face aux hommes lourdement armés des forces de soutien rapide, RSF, déployées partout dans la capitale soudanaise. L'association des professionnels soudanais, PA, clé de voûte de la contestation, a appelé à la grève et à la désobéissance civile jusqu'au renversement du régime. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos mardi en urgence pendant 2 heures à la demande de l'Allemagne et du Royaume-Uni qui ont fait circuler un communiqué appelant les militaires et les manifestants au Soudan à continuer à travailler ensemble vers une solution consensuelle à la crise en cours. Mais l'initiative a été bloquée par la Chine qui a fermement rejeté ce texte et par la Russie qui a exhorté à la prudence et insisté pour attendre une réponse de l'Union africaine selon des diplomates. Le Conseil militaire a dit regretter les violences de lundi qui ont fait plus de 35 morts. Son chef, le général Abdel Fattah al-Burhan, a appelé à des élections générales dans un délai de 9 mois maximum. Mais pour la SPA, le discours du général Burhan ne fera que raviver la flamme de la révolution.
La Cour de cassation française a validé hier l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Ce frère de Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé, est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat de notre confrère Norbert Zongo. Cependant, pour être effective, cette décision nécessite encore un décret du gouvernement français. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La plus haute juridiction française a rejeté le pouvoir en cassation du frère cadet de Blaise Compaoré pour maître François-Henri Briade, son avocat. Une bataille est perdue, mais pas la guerre. Pour que cette décision soit effective, un décret doit être signé par le gouvernement français et l'avocat promet de l'attaquer devant le Conseil d'État. Déjà le 5 décembre 2018, la Cour d'appel de Paris avait autorisé l'extradition de François Compaoré. Âgé de 64 ans, il a été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle en octobre 2017 suite à un mandat d'arrêt émis par Ouagadougou. Le dossier Zongo, classé en 2003 après un non-lieu, a été rouvert après la chute de Blaise Compaoré. Notre confrère Norbert Zongo a été assassiné le 13 décembre 1998 alors qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur de François Compaoré avec 3 de ses compagnons. Les dépouilles ont été retrouvées calcinées dans le sud du pays. Ce meurtre du journaliste garde une forte charge symbolique car le 13 décembre, des milliers de Burkinabés se rassemblent pour réclamer justice.
En République démocratique du Congo, plus de 2000 personnes ont contracté le virus Ebola et 1346 sont décédées depuis la déclaration il y a 10 mois de l'épidémie qui sévit dans l'est du pays, selon les derniers bulletins du ministère de la Santé. Malgré ce cap, les évolutions de ces dernières semaines sont positives, bien que la vigilance reste de mise, relativisent les autorités sanitaires congolaises. Elles se félicitent de la réduction du nombre d'attaques ciblées qui a permis aux équipes de rattraper une partie de leur retard pour contenir la propagation de l'épidémie, lit-on dans le bulletin, même si la situation sécuritaire reste instable et imprévisible.
RDC toujours, des experts de l'ONU chargés d'évaluer la lutte contre l'impunité après des violences meurtrières au Kasaï en 2016-2017 après la mort du chef coutumier Kamuina Sapu ont appelé mardi la justice militaire congolaise à accélérer le tempo et à élargir les enquêtes. Selon eux, sur l'ensemble des dossiers, un seul est en état d'être jugé. Dans leur rapport, les experts ont estimé que, vu l'effet de l'écoulement du temps sur la disponibilité et la qualité des éléments de preuve à recueillir, il y a urgence à accélérer l'ouverture des enquêtes judiciaires.
Le président tchadien Idriss Déby Itno a menacé mardi de rétablir la cour martiale supprimée en 1993 au Tchad, alors que l'est du pays fait face à un grave conflit intercommunautaire entre éleveurs et agriculteurs. Au moins 31 personnes sont mortes mi-mai dans l'est du Tchad au cours de 3 affrontements distincts qui ont opposé agriculteurs autochtones ouadiens et éleveurs membres de tribus arabes. Nous devons impérativement mettre un terme à cette cruauté inhumaine, a réagi monsieur Déby Itno lors d'un discours à N'Djamena.
La faction du groupe djihadiste Boko Haram, affiliée au groupe État islamique, a revendiqué hier une série d'attaques contre des bases militaires dans le nord-est du Nigeria et affirmé avoir tué 14 soldats. Les allégations de cette faction, l'ISWAP, État islamique en Afrique de l'Ouest, n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.
Ici aux États-Unis, un groupe de ressortissants d'Afrique centrale a été appréhendé samedi par les gardes frontières du poste d'Eagle Pass dans l'État du Texas. Ce sont au total plus de 150 Africains qui ont été interceptés à la frontière mexicaine au cours de la semaine écoulée. Des détails avec Michel Joseph.
Le 1er juin, des agents des frontières ont arrêté 37 immigrants clandestins venus de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Ils étaient illégalement entrés en territoire américain en traversant le Rio Grande, ce fleuve séparant les États-Unis et le Mexique. Le groupe était composé presque entièrement de familles, y compris de plusieurs jeunes enfants. Ils ont été transportés au poste frontière de Eagle Pass. Les agents de l'immigration disent avoir appréhendé plus de 27 000 personnes venant de 37 pays depuis octobre 2018. Ces appréhensions de migrants non mexicains ont augmenté de près de 500% cette année. Nous continuons de constater une augmentation du nombre d'immigrants originaires de pays que nous ne rencontrons pas normalement dans cette région, a déclaré Raoul Ortiz, chef de patrouille du secteur de Del Rio. Des familles du monde entier parcourent des milliers de kilomètres pour tenter d'entrer illégalement aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump poursuit aujourd'hui sa visite en Europe. Il va participer à des cérémonies à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement en Grande-Bretagne ce mercredi et en France demain, avec une escale en Irlande entre les deux événements. Hier à Londres, M. Trump a mélangé diplomatie et pique contre ses détracteurs lors d'une conférence de presse en compagnie de la première ministre britannique Theresa May. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Selon M. Trump, les États-Unis sont prêts à signer, je cite, un accord commercial phénoménal, alors que la Grande-Bretagne se prépare à quitter l'Union européenne. Il ne voit pas non plus de limitations quant au partage futur de renseignements avec Londres, malgré les désaccords actuels sur la menace posée par le géant tech chinois Huawei. M. Trump a rendu hommage à Mme May, qui quitte son poste vendredi, saluant son très bon travail. Il a en revanche fustigé l'attitude du chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, qu'il a décrit comme une force négative. Il dit avoir refusé de le rencontrer. Donald Trump s'en est également pris à nouveau au maire de Londres, Sadiq Khan, qui n'a pas épargné ses critiques au président américain. Il a par ailleurs qualifié de fake news les informations faisant état de manifestations importantes contre lui.
Selon le New York Times et le Washington Post, il y avait dans les rues de Londres des centaines de milliers de protestataires.
Les États-Unis ont imposé hier de nouvelles sanctions sur l'industrie touristique de Cuba, accusée d'ingérence au Venezuela en raison de son soutien au régime du président Nicolas Maduro. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Washington, qui accuse la Havane de jouer un rôle déstabilisateur en Amérique latine, interdit désormais aux Américains de se rendre à Cuba en voyage de groupe. Les sanctions visent également les bateaux de croisière ou de plaisance et les avions privés ou commerciaux. Ces sanctions ont été annoncées le 17 avril par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, lors d'une visite à la communauté cubaine exilée de Miami. Ces mesures entreront en vigueur aujourd'hui et sont directement liées à l'industrie touristique cubaine, déjà visée par de précédentes sanctions, selon le département d'État. Les États-Unis tiennent le régime cubain responsable de son rôle direct dans la crise orchestrée par Nicolas Maduro. Ces actes aideront à garder les dollars américains hors de portée de l'armée, des services de renseignement et de sécurité cubains, a expliqué le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. Ces mesures visent un secteur lucratif pour Cuba, car le nombre de touristes américains dans l'île a presque doublé entre janvier et avril par rapport à la même période en 2018.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Eni, la compagnie pétrolière italienne, vient de découvrir un important gisement de pétrole léger dans le puits d'exploration Adidigbo 1 NFW en Angola. Le gisement pourrait contenir entre 300 et 400 millions de barils ainsi que du gaz. C'est la cinquième découverte sur ce périmètre depuis le démarrage des explorations. Les cinq découvertes d'Eni pourraient contenir jusqu'à 1,8 milliard de barils de pétrole léger et feront l'objet d'une campagne d'évaluation en début d'année prochaine. Après près de deux ans d'absence du marché régional des titres publics émis par adjudication, le Sénégal effectue ce jeudi 6 juin 2019 son grand retour à travers une émission simultanée de trois lignes d'obligations assimilables du Trésor pour un montant de 50 milliards de francs CFA sur des maturités respectives de 3 ans, 5 ans et 7 ans. Ce retour du Sénégal constitue une bonne nouvelle pour le marché régional des titres publics émis par adjudication. Pour terminer, le FMI appelle la France à procéder à un effort budgétaire structurel ambitieux afin de réduire sa dette publique. Certes, cette année, la prévision de croissance du pays reste inchangée à 1,3% grâce à une économie résiliente, en partie grâce aux réformes importantes qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Mais les risques extérieurs ont augmenté et les problèmes structurels persistent à cause de la dette publique et privée élevée et d'un chômage structurel encore élevé.
Les sports, à présent, avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Commençons par le tribunal arbitral qui a rejeté les appels des Comores contre le Cameroun.
Oui, le TAS a débouté la Fédération de football des Comores, jugeant ces appels irrécevables. L'instance comorienne avait saisi le tribunal afin d'être réintégré à la CAN. Les Comoriens estimaient que la CAF n'avait pas appliqué son règlement en ne sanctionnant pas le Cameroun, incapable d'assurer l'organisation de l'épreuve, finalement confiée à l'Égypte. Le TAS a jugé irrécevables les deux appels déposés par les Comores en janvier puis en février. Les juges arbitraux estiment que, je cite, « même en cas de disqualification du Cameroun, cela n'aurait aucune incidence sur le classement des Comores dans leur groupe de qualification pour la CAN et qu'il lui était ainsi mathématiquement impossible de se qualifier pour cette compétition. »
La FIFA a levé la suspension de la Fédération de la Sierra Leone.
Oui, la FIFA a annoncé qu'elle levait la suspension de l'instance nationale de football Sierra Leone après l'acquittement de l'ex-présidente et de son secrétaire général qui étaient visés par des accusations de corruption. Ils étaient accusés d'avoir détourné un don de 50 000 dollars de la CAF destiné à l'achat de matériel IRM. La FIFA avait suspendu en octobre la fédération en dénonçant le limogeage en septembre d'Isha Johansen, alors présidente, et Chris Camara, secrétaire général, comme une ingérence des autorités politiques dans le fonctionnement de la fédération. Les matchs éliminatoires de la Sierra Leone pour la CAN 2019 avaient été annulés avant que la CAF ne disqualifie le pays en décembre dernier.
Le Real a recruté le prometteur serbe Luka Jovic.
Oui, le jeune attaquant international serbe de 21 ans qui évoluait la saison dernière à Francfort a signé un contrat de 6 ans avec le Real Madrid. Selon Marca, le club madrilène a déboursé environ 60 millions d'euros pour s'offrir Luka Jovic 4 sélections et 1 but avec 5 millions d'euros en option. En Allemagne, des médias montent là-bas jusqu'à 70 millions. Le Serbe a marqué les esprits en terminant deuxième meilleur buteur de la Ligue Europa avec 10 réalisations. En Bundesliga, Jovic s'est aussi illustré en se classant troisième meilleur buteur avec 17 buts.
NBA Golden State toujours privé de Durant pour le match numéro 3 ce soir.
Oui, le double champion NBA en titre sera encore privé de son ailier Kevin Durant, absent depuis 4 semaines sur blessure. Durant, élu meilleur joueur des deux dernières finale, s'est blessé à un mollet le 8 mai contre Houston lors du match numéro 5 de la demi-finale de la Conférence Ouest. Sans lui, son équipe a éliminé Houston 4-2, puis Portland 4-0, mais il a cruellement manqué aux Warriors lors du match numéro 1 de la finale, remporté 118-109 par Toronto jeudi. Les Warriors ont depuis égalisé à une victoire partout en s'imposant 109-104 dimanche à Toronto.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a décidé de cesser les négociations avec l'Association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation. Le mouvement de contestation a aussitôt annoncé la poursuite de la grève et la désobéissance civile jusqu'au renversement du régime. Sur le discours du général Burhan, Idriss Fall a recueilli hier, mardi, la réaction de Mohamed Naji, directeur de la Tribune du Soudan à Paris.
Le discours du général Burhan, il vient après une déclaration qui a été faite par l'opposition soudanaise, les forces pour la liberté et le changement au Soudan, où ils avaient déjà déclaré la grève générale dans le pays jusqu'à ce que ce régime soit renversé. Avant, son porte-parole disait que nous, on n'a pas fait exprès, on n'a pas tué les gens comme ça, c'était pas voulu, que c'était un gros mensonge, qu'on voyait très bien que les miliciens étaient là, ils savaient bien ce qu'ils faisaient, etc. Donc, Al-Burhan, il a réagi, il n'a pas agi. Voulait se positionner par rapport à l'opposition soudanaise.
Mais au lendemain d'une répression sanglante à Khartoum, donc maintenant, on se dirige vers quoi?
Il y a tous les scénarios. Le scénario d'abord qui est déjà en place, la confrontation totale. On a déjà l'opposition depuis hier, elle a décrété la grève générale dans le pays. Ils sont même allés à faire quelque chose qui est phénoménal. Ils ont décrété qu'aujourd'hui, c'est l'Eid, alors que le gouvernement disait que l'Eid était mercredi. Il y a beaucoup de musulmans qui ont fait la fête aujourd'hui, comme Saint-Paul, de cet état de défiance, le bras de fer dans lequel les deux parties se sont engagées.
La communauté internationale dans tout ça, qu'est-ce qu'elle peut faire?
La communauté internationale, dans un premier temps, elle a condamné l'assassinat. Les miliciens, ils sont venus à l'aube, au fait, vers 4h, 4h30, ils sont venus, ils ont attaqué des gens qui étaient là. Ça a été condamné unanimement par la communauté internationale et aussi par l'Union africaine. L'Union africaine, sa position est importante dans la mesure où il a donné déjà un délai de 2 mois qui va terminer le 30 juin. Si Khartoum n'auront pas le pouvoir, un gouvernement civil, ils vont appliquer les sanctions. Le Soudan, sur son adhésion, va être suspendu. Mais aussi, ils vont demander via les Nations Unies au Conseil de sécurité donc, d'imposer des sanctions individuelles contre les dirigeants militaires.
Les Américains aussi ont tapé du poing sur la table hier.
Tout le monde a condamné, tout le monde les a menacés. Il a menacé les militaires et tout le monde leur a dit « si vous ne faites pas ça, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et même l'Union africaine va être amenée à aller dans cette logique. Donc là, dans cet engrenage, dans cette dynamique, l'Union africaine même est amenée à aller au bout de sa logique. Bon, il y a des gens qui vont me dire « mais ces gens-là, ils sont soutenus par les pays de Golfe ».
L'Arabie saoudite, oui.
Mais cela ne vaut rien dans la balance des choses. Même si les Saoudiens et les Émiratis, ils veulent bien que les militaires restent parce qu'ils sont leurs alliés, leurs copains, ils vont garantir, n'est-ce pas, la continuation des troupes soudanaises dans la guerre du Yémen, qu'ils ne peuvent pas faire face, j'allais dire, à la communauté internationale.
Mohamed Naji, directeur de la Tribune du Soudan à Paris.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Sénégal, un reportage de la BBC intitulé « Un scandale de 10 milliards de dollars » met en cause Aliou Sall, frère du président Macky Sall. Dans une conférence de presse, le frère du président a apporté lundi des démentis et annoncé une plainte contre la BBC. Du côté de la classe politique et de la société civile, des voix s'élèvent pour que des actions plus efficaces soient mises en œuvre pour éviter ce genre de scandale. De Dakar, Sedina Abagay.
Cette affaire est complexe car il pose un problème éthique, juridique et politique. Tels sont les propos d'Aliou Tine, expert indépendant des Nations Unies. Pour lui, même si le frère du président bénéficie de la présomption d'innocence, il doit démissionner de ses postes étatiques pour que l'enquête puisse se dérouler convenablement.
Il a bien fait de porter plainte, parce que la meilleure des solutions pour son honneur, d'ailleurs, son honneur, parce qu'il doit démissionner, mettre à l'aise le président de la République, mettre à l'aise la justice sénégalaise, et effectivement, une fois que vraiment son honneur sera lavé, bien sûr, ça va. De deux, je pense que c'est très difficile d'être à la fois dans le public dans le privé et en même temps avoir une parenté dans l'administration. Ça pose des problèmes.
Pour apporter des éclairages et faire la lumière sur cette affaire, le frère du président Aliou Sall s'est dit prêt à répondre à une commission d'enquête parlementaire. Mais pour le député Mamoudou Diop de Croix, ce ne serait pas judicieux.
Je ne sais pas, le procureur de la République, dans des cas comme ça, est-ce qu'il ne doit pas s'autosaisir? Et voilà, les commissions d'enquête parlementaires sont un droit de l'Assemblée, que l'Assemblée n'utilise pratiquement jamais. Je n'y crois pas. Depuis 7 ans, 8 ans, on parle de tellement de scandales, vous n'avez jamais vu de commission d'enquête. Lorsque l'Assemblée et la majorité politisent tout, comment vous voulez que moi je puisse croire à une commission d'enquête?
De son côté, l'ingénieur géologue Farindaou estime que le Sénégal doit rendre obligatoire les appels d'offres et prévenir les conflits d'intérêts liés à la parenté en renforçant le dispositif judiciaire.
Et donc l'idée, c'est pour éviter cela, pour se servir de l'expérience malheureuse d'autres pays africains, qu'au Sénégal, on légifère sur la parenté et de dire que toutes les personnes du premier degré, donc de familial, c'est-à-dire des pères, mères, frères, sœurs, oncles, tantes, qu'ils ne puissent pas bénéficier de contrats ou gagner des contrats de service ou autres lorsqu'ils dirigent ou ils sont actionnaires majoritaires ou ils représentent une société pour laquelle les droits doivent être validés par soi une haute autorité.
En attendant la suite que la justice sénégalaise va donner à cette affaire, les avocats d'Aliou Sall comptent porter plainte contre la BBC, ce devant les juridictions nationales et internationales, pour laver, disent-ils, l'honneur de leurs clients. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'Aïd el-Fitr, la fin du jeûne du mois du Ramadan, célébré cette semaine par les musulmans du monde entier, a été placé sous le signe du pardon dans les lieux de culte au Gabon. La grande prière de la fête s'est déroulée à la mosquée Hassan II de Libreville. Une absence de taille cependant à ce grand rassemblement religieux, celle du raïs de la communauté, Ali Bongo Ondimba. Ambiance de fête à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
La cérémonie marquant la fin du Ramadan s'est déroulée à la mosquée Hassan II de Libreville. Pour Othman Hicham, c'est le temps de la rédemption.
C'est toujours une nouvelle vie. La fin du Ramadan, c'est toujours l'occasion de revoir un petit peu le bilan de l'année et voir ce qu'on a fait de bien et de mal. Essayer d'améliorer soi-même, sa famille.
Sur l'esplanade de la mosquée ou à l'extérieur, l'heure est au regroupement communautaire avec des discussions qui se soldent par des invitations au grand repas de fin du Ramadan. Tankara Boukoum sort de la prière avec une pensée pour sa famille restée au Mali.
Le pays, même sans le Ramadan, on passe aux parents. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est surtout pour soutenir la famille, c'est pour soutenir la famille, les parents. Donc le mois du Ramadan est un mois quand même très dur. Absolument,
comme beaucoup d'autres femmes musulmanes, Mariam Issembe est pressée d'aller organiser le festin à la maison.
Je vais recevoir quelques amis, je vais m'organiser en famille. Voilà, c'est une fête d'amour. L'islam est une religion d'amour, donc je vais recevoir quelques amis avec ma famille. Nous avons partagé un peu ce que j'ai préparé pour ça.
Par tradition, il faut aussi rendre visite à ses proches. C'est la dimension sociale de la fête qui est aussi synonyme de l'observation du troisième pilier de l'islam. Diallo Amadou, fidèle musulman.
Ce qui me fait plaisir, je me retrouve à la fin d'un mois béni, d'un mois d'adoration, d'un mois de pénitence, d'un mois qui remplit de tout le bonheur que l'homme cherche en tant que religieux, en tant que musulman. Tout un musulman rêve de terminer les 30 jours du mois de carême en bonne santé avec tous les frères musulmans. Et je souhaite bonne fête à tous les musulmans du monde et que la paix règne sur la terre et que le musulman soit dans la bonne santé et dans la guidance de Dieu.
Le raïs de la communauté musulmane du Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, n'était pas de la prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée Hassan II de Libreville. Une telle absence n'est pas passée inaperçue. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
La fête de l'Aïd el-Fitr a été aussi célébrée ce mardi au Burkina Faso. Des milliers de musulmans ont prié dans la capitale burkinabé. Des membres du gouvernement aux autorités coutumières et religieuses, tous étaient aux côtés des musulmans pour la grande prière. marquant la fin du Ramadan. Les prêches et invocations ont porté sur la paix et la stabilité de ce pays, qui a subi de nombreuses attaques d'extrémistes musulmans. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Place de la Nation, au cœur de Ouagadougou. Des milliers de musulmans, la plupart en boubou blanc, viennent ici pour prier. Une prière qui marque la fin du mois de jeûne et de pénitence.
Aujourd'hui marque la fin de 29 jours d'intense prière, 29 jours de privation.
El Hadj Noun Dianda, membre du comité d'organisation de l'Aïd El Fitr.
Aujourd'hui, nous célébrons Dieu. Nous célébrons sa gloire et c'est l'occasion aujourd'hui d'exprimer notre solidarité entre nous dans la famille, entre nous frères, entre nous collègues. Et nous avons vu qu'au bout de ces journées de privation, chacun a compris ce que c'est que la faim, chacun a compris ce que c'est que la soif.
Les musulmans ont aussi prié pour la paix et la stabilité au Burkina. Yacouba Kindo est infidèle.
Vraiment, on a demandé la paix pour le Burkina face à la cohésion. On a prié Dieu pour que les terroristes nous laissent en paix, pour que bon, la paix revienne au Burkina Faso.
Nous n'avons pas de patrie, nous n'avons que le Burkina qui est notre patrie.
El Hadj Noun Dianda, membre du comité d'organisation de l'Aïd El Fitr.
C'est une obligation pour nous de prier pour la paix. Et tout ce que nous vivons comme situation d'insécurité, c'est une épreuve voulue par Dieu pour nous amener tous à aimer notre pays et à savoir que la sécurité que nous vivons tout le temps, c'est une richesse que nous devons travailler à préserver.
Des membres du gouvernement, des autorités coutumières et différentes confessions religieuses étaient aux côtés des musulmans, en signe de solidarité. Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou.
Que le Seigneur nous rapproche les uns des autres pour qu'ensemble nous puissions dialoguer et construire un monde de paix, un monde de fraternité.
Toutes les communautés religieuses de ce pays sont en communion pour que notre pays puisse avancer vers le développement.
Christophe Dabiré, Premier ministre.
Les prières qui ont été faites, les bénédictions qui ont été faites pour le pays, c'est pour que la paix revienne dans ce pays. Notre vivre ensemble qui a été mise à mal par le terrorisme, par le délitement de la cohésion sociale, que notre pays retrouve le calme et la sérénité.
Depuis 2016, des attaques terroristes ont fait plus de 300 morts au Burkina. Ces derniers mois, plusieurs lieux de culte, des églises et des mosquées ont été la cible d'attaques meurtrières. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur la visite d'État du président américain Donald Trump au Royaume-Uni et son déplacement en France pour le 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Nous en profiterons pour faire le point sur les relations entre les États-Unis et l'Europe. Y a-t-il eu bouleversement dans leurs rapports ou au contraire, les liens sont-ils toujours aussi solides? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.